hâte de jouer.
Sono non vedo l'ora di giocarla.
En cas de qualification au mondial, l'Italie retrouverait le Canada, la Suisse et le Qatar en phase de poule.
Italie, Irlande du Nord, 19h45 ce soir.
Radio G. 101.5 FM.
Vous êtes chanteuse, chanteur, seul ou en groupe, Radio G vous propose de vous donner de la visibilité en participant à la 7e édition de Radiovision, le concours de chansons de Radio G. Il vous suffit de proposer une chanson originale, texte et musique, et de remplir le formulaire sur radiovision.fr. Si vous êtes sélectionné, vous participerez au concours et vous serez soumis au vote du public en étant diffusé sur le site et l'antenne des radios partenaires. Inscription libre et gratuite avant le 19 avril 2026 sur radiovision.fr.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Bonsoir, bonsoir. On n'a pas arrêté d'annoncer l'arrivée du printemps ces derniers temps dans l'émission sur le 100.5 FM et puis partout. Hein, le printemps était là, mais il fait un petit peu plus froid. Voilà pour le bulletin météo très succinct. Tout à l'heure, dans quelques instants, on aura un point sur les actualités avec Marie. Mais en attendant, je vous présente dans cette intro nos invités qu'on va accueillir au cours de cette émission. On sera avec Pauline de Boffle du CDN, le Caisse CDN. Notre voix qui fait le lien entre le partenariat entre le CDN et l'émission Topette, qui est venu avec Dylan Roncin, qu'on connaît dans Topette aussi. Il est déjà venu plusieurs fois à ce micro. Ce soir, il va nous parler d'intro. Voilà son spectacle qui sera proposé dans le cadre d'écriture en acte, dont Pauline pourra nous parler. En attendant, c'est parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et avant toute chose, donc, un point sur l'actualité avec Marie ce soir.
J'ai l'info. L'actualité à Angers et dans le département de Maine-et-Loire, sur Radio G.
Bonsoir à tous. Nous débutons ce flash info avec les municipales. Christophe Béchu sera officiellement élu maire d'Angers ce vendredi 27 mars à l'occasion de l'installation du conseil municipal. Néanmoins, à l'approche de cette installation, l'attention monte à la mairie. Dans un communiqué diffusé ce 25 mars, le groupe Demain Angers accuse le futur maire Christophe Béchu de remettre en cause les acquis démocratiques de la minorité. Selon ses élus, des décisions auraient été présentées en amont de l'installation officielle du Conseil, et ce, sans concertation préalable. En cause, le vote du règlement intérieur fixant les règles de financement et de répartition des moyens en personnes affectées aux groupes politiques. Christophe Béchu octroyant le minimum légal à ses opposants. Parmi les mesures évoquées, une baisse des moyens humains passant de 2 équivalents à temps plein à 1,2. La suppression d'un espace de travail pour les collaborateurs, ainsi qu'une diminution du droit d'expression dans le magazine municipal Vivre en Angers. Des changements que Demain Angers considère comme un recul inédit. Nul doute que le conseil municipal de demain promet d'être animé. Maintenant, direction l'atoll. Suite aux premières informations évoquant une possible arrivée d'IKEA à l'atoll, l'enseigne suédoise a officialisé sa position. IKEA France confirme avoir déposé une offre de reprise d'une partie des actifs dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire d'Alinéa devant le tribunal des activités économiques de Marseille. Par la même occasion, IKEA précise que son projet concerne notamment l'implantation d'un magasin à Bécouzé, proche d'Angers, sans détailler à ce stade le format ou le calendrier. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie plus large de développement sur le territoire français. Néanmoins, à ce stade, aucune implantation n'a encore acté. Comme le rappelle IKEA, la proposition d'IKEA France, comme toutes les offres des repreneurs potentiels déposées, sera examinée à l'appréciation du tribunal des activités économiques de Marseille. Une affaire à suivre. Et pour terminer, une info culture. L'exposition consacrée aux œuvres du street artiste Banksy débarque à Angers. Du 11 au 26 avril, la Banksy Modeste Collection fera escale à la Collégiale Saint-Martin. Avec plus de 250 œuvres et objets, cette exposition exceptionnelle invite les visiteurs à découvrir gratuitement l'univers du street artiste anonyme le plus célèbre. Réalisé le plus souvent dans les rues, au pochoir, les œuvres de Banksy dénoncent et critiquent les travers des hommes et des sociétés. Racisme, homophobie, religion, capitalisme, Guerre, désinformation sont autant de thèmes qu'il soumet à nos regards et nos consciences avec subversion, humour et poésie. Connu dans le monde entier pour son travail engagé, l'artiste a toujours farouchement préservé son anonymat. Constitué par un collectionneur privé, pistant le moindre objet, dessin, sérigraphie et collaboration de l'artiste, cette collection présente l'œuvre de l'artiste de 1990 à nos jours. Courez-y vite.
J'ai l'info sur Radio G.
Merci beaucoup Marie, on vous rappelle de prendre les informations nécessaires et utiles pour le Tout Feu Tout Flamme, le festival proposé notamment par le Badgar Comedy Club. L'émission Elle était une fois sur Radio G en est partenaire, donc on vous renvoie tout de suite sur la page de podcast de cette émission pour en découvrir davantage et surtout rester à l'écoute parce qu'il y aura des contenus bien évidemment spéciaux et adaptés, pris sur place ou en tout cas pour annoncer la suite de la programmation. Nous on continue ce soir dans Topette avec nos invités.
L'invité de Topette sur Radio G.
Et nos invités sont le Quai CDN. Voilà, en tout cas, deux représentants, représentantes du Quai CDN. Bonsoir Pauline.
Bonsoir.
Pauline Deboeuf, tu es à la communication numérique précisément du Quai CDN et même à la billetterie.
Tout à fait, c'est bien ça.
Voilà, alors être à la billetterie, ça veut dire être au guichet ou alors c'est toi qui gères les stocks de billets, on va dire.
un peu des deux, au guichet, au téléphone, derrière mon ordinateur, parce qu'en effet, on a une billetterie full web, donc vous pouvez acheter à toute heure du jour et de la nuit sur ordi, tablette, téléphone, mais vous pouvez aussi nous appeler pour avoir plein d'infos.
Et ben voilà, pour les infos pratiques concernant ton poste, la fiche de description de ton poste en partie en tout cas. Tu es venu avec Dylan Roncin ce soir. Bonsoir Dylan.
Bonsoir.
Le retour dans Topette, ça faisait trois ans peut-être que tu n'étais pas venu.
Ouais, je pense même trois, quatre ans même, non?
Oui, 3-4 ans. La dernière fois, tu n'étais pas encore tout à fait diplômé. N'étais qu'un comédien en cours d'apprentissage. Là, ça y est, tu es confirmé maintenant.
Je suis sorti de la formation au conservatoire il y a 2 ans. En 2024, et donc ça fait 2 ans que là j'enchaîne un petit peu les projets théâtre, cinéma, où je commence un peu à explorer de nouveaux univers aussi.
Tu nous avais, la dernière fois qu'on avait entendu parler de toi ici, c'était pour Prodigium.
C'est ça.
Voilà, ça s'était très bien passé. Content du produit final, de cette expérience, de cette aventure. Qu'est-ce que tu en gardes maintenant?
Clairement, c'était un premier court-métrage de 20 minutes où vraiment j'avais plein d'envie, plein de rêves et plein de rêves avec ce court-métrage et qui a permis aussi beaucoup de rencontrer des artistes, des collaborateurs artistiques qui m'ont permis après de faire les projets que je fais aujourd'hui, dont un autre court-métrage qui s'appelle Justin Clown, qui a un petit peu voyagé dans des festivals un peu partout en France, et après de faire des spectacles, dont Intro, qui lui est le premier spectacle que je mets en scène.
Et dont on parle ce soir dans quelques instants. On va juste redonner un petit peu de contexte pour comprendre dans quel cadre il vient s'inscrire dans la programmation du Quai. Parce que Pauline, tu es venue avec une grande brochure fluo, on peut pas la louper. Clairement.
Ah ouais. Non, on peut pas la louper, en effet, fluo dégradé. Alors en fait, c'est la revue du Quai, c'est la deuxième édition de la revue du Quai, donc qui s'appelle Écriture en acte, tout comme Le Temps fort dont on parlait.
Ah, c'est un pur hasard, c'est pas forcément lié, enfin c'est pas un hasard.
Alors, pas un pur hasard, c'est justement en fait, la revue est notamment faite pour présenter dans cette deuxième partie de saison Les Temps forts, d'Écriture en acte, donc là qui est composé de 7 spectacles plus une petite forme jeune public, et donc ce temps fort sera ouvert le 1er avril par justement Intro, le spectacle de Dylan. Mais dans cette revue qui est disponible gratuitement dans le forum du Quai, vous pouvez retrouver aussi pas mal d'interviews, notamment de l'équipe de Songe, le spectacle de Martial Di Fonzobo, notre directeur, qui a joué au Quai en mars et qui part là en tournée, mais également des interviews, des extraits de textes, des rencontres avec des artistes, notamment Création 7, le gros spectacle de Tiffaine Raffier, qui est notre artiste associé au Quai, qui va jouer en juin. Donc Création 7, parce qu'on n'a pas encore le nom, mais en tout cas on peut découvrir l'équipe de ce spectacle dans cette revue.
Voilà, et tu l'avais ouvert devant toi, mais t'as même pas eu à tourner les pages pour nous présenter entièrement la revue. Donc, Écriture en acte, ce qui est aussi le temps fort, donc, dans le cadre duquel s'inscrit Intro au début. Du coup, 7 spectacles que tu as dit. C'est quoi, en fait, par rapport à la programmation? C'est un plus, c'est un temps fort identifié? Il y a une configuration particulière pour les spectacles qu'on va voir?
Tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc là, on est en plein festival conversation, là, au mois de mars, avec le CNDC Hockey. Et donc, juste après, en avril, nous, c'est côté CDN et théâtre qu'on enchaîne avec, donc, ce temps fort, en effet, consacré aux écritures contemporaines. Donc, des auteurs et autrices vivants et vivantes, qui seront, pour la plupart, présents au Quai, en fait. Et donc, on présente ces spectacles qui sont des seuls en scène. C'est-à-dire que c'est un seul ou une seule acteur ou actrice qui sera présent au plateau. Alors, parfois, c'est une personne un peu double casquette, disons, comme Dylan, justement, qui a écrit le texte et qui l'interprète. Et parfois, à l'inverse, c'est un texte préécrit, mais un texte, voilà, récent, qui est interprété par un acteur ou une actrice. On a plusieurs artistes, voilà, de la région, avec, donc, par exemple, Dylan, mais aussi Marion Thomas, qui est une artiste nantaise, qui présente son spectacle Faire Troupeau, qu'elle a écrit également. Et on a aussi, voilà, des artistes venus d'ailleurs. Un hommage à Barbara avec Marie-Sophie Ferdan, qui est une grande actrice qu'on adore, qu'on avait vue il y a 2 ans dans Dolorosa, la création de Marcia Di Fonzobo. Et par exemple, le retour de Dimitri Doré, un comédien qui a fait ses débuts aussi au Quai, dans Deinas de Jonathan Capdevielle, qui était aussi un artiste qu'on a beaucoup connu au Quai, et là qui parle de culture lettonne.
Alors je constate, Pauline, que ce sont des formats relativement courts. On est sur du 45 minutes, 1h30 grand max. J'imagine que ce n'est pas un hasard là non plus. C'est le format qui veut ça, ou alors c'est ce que vous cherchiez à mettre justement dans ce temps identifié, peut-être pour permettre un premier pas pour de nouveaux publics relativement faciles, digestes, pas aller dans du trop long tout de suite.
Oui, exactement, pour les deux raisons en fait. Déjà sur ce format un peu temps fort slash festival, donc qui dure du 1er au 10 avril, l'idée c'est aussi ou d'enchaîner des spectacles ou peut-être de revenir plusieurs fois dans une même semaine au Quai, donc avec des formes voilà plus courtes au niveau temps. Et puis après, moi, mais Dylan en parlera mieux que moi, forcément quand on est seul en scène, souvent on est sur des formats peut-être plus courts, parce que c'est déjà quand même une sacrée performance d'assurer seul une heure de spectacle. Donc voilà, en effet, on est sur des formats plus courts. Donc à vous de composer votre programme. Est-ce que vous voulez enchaîner, en découvrir un, deux? Tout n'est pas OK. Hein. On a aussi des partenariats avec notamment le THV à Saint-Barthélemy d'Anjou, donc avec Faire Troupeau. Et puis Barbara, dont je parlais avec Marie-Sophie Ferdan, qui là sera au Grand Théâtre, Place du Ralliement.
Voilà, on n'oublie pas les autres structures, le tissu local, le réseau culturel angevin. Avant de parler du fond d'intro et puis même de la forme aussi, Dylan, sur le format de ce temps fort identifié, on l'appelle festival ou pas, Pauline? Ouais, on peut.
Alors nous on l'appelle temps fort. Après temps festival, fort. Ça peut marcher aussi. Voilà, mais c'est un petit temps fort regroupé en ces 10 jours dans la programmation du Quai.
C'était le format idéal pour intro, Dylan. Tu connais peut-être les autres spectacles metteurs et metteuses en scène?
J'en connais quelques-uns, notamment Jonathan Capdevielle, qui est un peu un grand metteur en scène, qui est assez réputé dans le théâtre français. Et après, je vais découvrir beaucoup, je pense, mais ça donne très envie. Et puis c'est vraiment ouf de pouvoir être en ouverture de ce festival, de ce temps fort, de pouvoir ouvrir avec intro.
En même temps, est-ce que intro pourrait être ailleurs qu'au début?
Je sais pas. Non, mais je suis très content. Ça va être très fort.
Et on en parle justement d'intro dans quelques minutes. Juste avant tout ça, Marie, est-ce que toi, tu es une adepte du théâtre contemporain? Est-ce que ce sont des propositions qui te parlent ou justement qui peuvent éveiller ta curiosité?
Alors, concernant Monsieur Capdevielle, alors je me souviens plus de son prénom. Effectivement, je suis pas une adepte de théâtre, mais j'en ai déjà entendu parler. Donc, je pense que au plan national, il est assez réputé. Donc, ça peut être une chance. Et après, concernant les formats qui ont été évoqués, effectivement, pour susciter l'envie, c'est une très bonne idée, parce que ça permet soit de mettre en pied dans le théâtre, mais également de faire librement sa programmation tout en découvrant cet art et en n'étant pas contraint par un temps très long. Il m'est arrivé de voir des pièces de 4 heures, ce qui est un peu plus conséquent, et quand on n'est pas forcément un grand amateur, ça peut parfois être lourd. Donc ce concept de temps très réduit, c'est assez intéressant, je trouve.
Et puis dernièrement, c'est vrai qu'au Quai, on revient sur des formats courts, parce qu'il y a quelques années, on était sur du 24 heures carrément de représentation. Mais ça, c'est une autre époque. On parle donc maintenant de ce qui nous intéresse. Tout nous intéresse, évidemment, mais comme Dylan nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir au micro de Topette, on va l'entendre parler lui-même d'intro, de ce seul en scène, du sujet qui est abordé, en quoi ça résonne aussi avec la thématique de ce temps fort. Mais avant tout ça, on écoute Photo Photo de Théophile sur le 100.5 FM. Thank you.
pas l'attention qui me manque. J'ai juste l'impression d'être en otage quand tout le monde me dit donc. En regardant mon visage, je me sens pas artiste ni musicien quand je me tiens en face d'eux. Bah ouais, on a toujours un qui se plaint quand on n'exauce pas tous ses voeux. Tout ce milieu est dangereux, rempli de privilèges. Sur scène on s'identifie à eux, derrière c'est tout un manège. Et je t'emmène avec moi sans te faire croire aux poussières Dior. Moi je dors dans des draps de soie, plus je me plais dans l'effort. Photo, photo sur les réseaux, poteau, poteau pour le réseau. Musique mafia, contact c'est trop. J'arrête là où je finis solo. C'est photo, photo sur les réseaux, poteau, poteau pour le réseau. Physique, commerce, tout pour l'ego. J'arrête là où je finis solo. C'est donc pour ça que je me sens seul. J'ai pas la même vision que mes semblables. Quand la passion devient le beurre, beaucoup de gens autour pour étaler la fable. J'ai besoin d'être une étincelle.
Théophile sur le 100.5 FM.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Eh ben, on va reprendre les choses au début avec intro, le spectacle de Dylan Roncin qui est avec nous dans Topette ce soir pour en parler. Intro qui s'inscrit, alors si vous prenez l'émission en cours de route, dans le cadre du temps fort écriture en acte proposé par le CDN, des spectacles contemporains, seuls en scène, format plutôt relativement court en tout cas, on dépasse pas les 1h30. On pourra tout à l'heure, Pauline qui est avec nous aussi, reparler des autres spectacles éventuellement. Bien, si on a le temps, mais je pense qu'on aura le temps. Mais avant tout ça, Dylan, intro. Alors, on ne l'a pas précisé, mais c'est important de le préciser. Le temps fort parle de choses bien précises quand même. On est sur des questionnements, des sujets politiques, des sujets de société, des sujets qui reviennent aux origines et à la quête d'identité. On trouve ça aussi dans tous les spectacles, Pauline, juste avant quand même qu'on...
Oui, tout à fait, mais là, c'est vrai que l'avantage en fait des auteurs et autrices contemporains, donc des personnes qui vivent la même époque que nous, c'est d'être vraiment en prise, en effet, avec toutes ces problématiques sociétales. Il n'y a pas du tout de thème imposé, mais c'est vrai qu'on retrouve beaucoup
le
dans
ces... Le contemporain fait que...
Voilà, c'est ça, le théâtre en prise avec le monde direct.
Et justement, intro propose de revenir aux origines des luttes queer. C'est une mise en perspective, en abîme peut-être de ton récit, Dylan. Alors, c'est annoncé comme ça, c'est la question que je me posais et que je t'ai posée aussi hors antenne, puisqu'on commence à 17 ans, Dylan Roncin découvre les romans d'Édouard Louis, il y reconnaît son milieu, ses peurs et son désir d'émancipation. Donc, je suppose que tu pars peut-être d'une histoire à toi pour mettre en relief par rapport à des choses générales et peut-être aussi des découvertes que tout ça, ça résonne avec de l'histoire qui a commencé il y a longtemps. Mais pour nous parler d'intro, tu seras le plus adapté, je pense.
Mais c'est la grande question de se demander est-ce que... Moi, ça m'amuse de pas savoir ou de savoir ou d'être dans le flou entre le personnage, mon histoire personnelle, et d'être dans ce flou-là, de dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, et de jouer le rôle de ça, de jouer le personnage ou pas. Et en concernant les identités queer et leurs origines, quand on grandit comme un enfant queer, on cherche beaucoup justement la question de l'origine, on recherche beaucoup la question des représentations queer. Quand on grandit, on cherche... Enfin, moi, j'ai grandi en cherchant des héros queer. Et c'est ce que je dis, à 17 ans, je découvre pour la première fois les romans d'Édouard Louis, et pour la première fois, je réussis à me reconnaître dans l'histoire à travers le personnage principal. Et donc ça, c'est assez fou de découvrir ça à 17 ans, quoi. Et avant ça, en lisant d'autres romans, de pas se reconnaître, même dans des séries ou à la télé ou au cinéma, de pas réussir à se reconnaître. Et donc on grandit avec ça, une quête d'identité, une quête de représentation. Et c'est aussi ça dont je voulais parler dans le spectacle, la question de l'identité queer et où est-ce qu'on recherche les représentations, notamment dans les luttes queer qui ont existé en France, mais aussi aux États-Unis. Aux premières luttes queer de 69 à Stonewall avec Marsha P. Johnson, qui était un peu une figure queer, une icône queer, qui est qui est une femme transgenre noire, qui était un peu la première à lancer la première pierre aux flics qui sont intervenus dans le bar de Stonewall. Enfin voilà, je sais pas si c'est à Stonewall en 1969. Il y a donc un bar queer qui voilà était là, et des policiers sont arrivés pour arrêter les personnes queer du bar, et pour la première fois les personnes queer se sont dit on va pas se laisser faire et on va lutter et se battre en fait littéralement. Et donc il y a la légende qui dit que Marsha P. Johnson a lancé la première pierre, bref, et donc c'est devenu une icône comme ça. Et on la voit dans le spectacle, elle apparaît, fait des apparitions. Et enfin bref, il y a aussi en France la même chose qui s'est passée en 77 dans un bar qui s'appelle le Manhattan à Paris, où des policiers sont intervenus et ont arrêté des personnes queer dans les backrooms du bar. Et la première lutte, la première manifestation queer en France, elle est arrivée là en 77 devant le tribunal, et ils sont arrivés, ils ont manifesté. Enfin bref. Donc voilà, parce qu'il faut savoir qu'avant 1982, il y a ce qu'on appelait le délit d'homosexualité, où il était interdit d'être homosexuel, et donc on pouvait être arrêté pour ça. Et donc il y avait des sortes de stratagèmes aussi pour avoir des relations sexuelles entre personnes queer, entre hommes. Et les stratagèmes, c'était d'avoir des relations sexuelles cachées, discrètes, rapides, dans des pissotières, donc où les gens allaient pisser. Et donc il fallait faire très vite, avoir des relations sexuelles très rapides. Et ce que je dis aussi avec le spectacle, c'est qu'aujourd'hui, on peut retrouver les mêmes comportements sexuels dans la communauté queer, avec notamment Grindr, qui est une application de rencontre gay, où le principe, c'est d'avoir des relations discrètes et rapides. Et en fait, on se rend compte de ça, c'est quel est l'héritage de la répression de l'homosexualité. Et on se retrouve que cet héritage, elle existe bien réellement, et qu'elle a un vrai impact, des vraies conséquences sur nos comportements queer. Et c'est fou ça. Et c'est ce que dit par exemple Monique Wittig. Elle dit que l'hétérosexualité, elle parle de dictature hétérosexuelle. Elle dit que l'hétérosexualité, c'est un régime totalitaire. Et je trouve ça assez marrant parce que ça résonne avec la répression de l'homosexualité qui a existé et qui a des conséquences sur nos vies aujourd'hui.
Donc tu veux dire, il y a un état de fait des choses aujourd'hui qui trouve son origine quelque part. Il y a une quête aussi de chacun et chacune vers son identité, avec un manque de représentativité peut-être de cette identité-là, donc queer que tu désignes, et avec une norme aussi imposée. Donc tu décris tout ça, juste qu'on redonne un peu la définition pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, parce qu'on sait que c'est contemporain, des fois il y a beaucoup de stéréotypes, beaucoup d'incompréhension aussi sur les termes et les définitions. Queer, c'est quoi en fait, une définition simple?
Queer, ça veut dire bizarre en anglais, et en fait c'est de la réappropriation. En fait, à l'époque, on disait queer, on traitait de personnes bizarres, donc, et après on s'est réapproprié ce terme en disant on est bizarre, on est queer. Comme aujourd'hui, on pourrait dire, par exemple, le mot PD, par exemple, il devient, on est PD, c'est aussi c'est politique, c'est très politique de dire, c'est presque militant de dire, je suis PD. Enfin, il y a une réappropriation des mots. Donc, c'est queer, ça désigne l'ensemble des personnes LGBT. L'ensemble des personnes, entre guillemets, bizarres, dont on nous disait qu'on était bizarre.
Qui sont dans une représentation autre que ce qui serait hétéronormé, peut dire.
Voilà. Exactement.
Voilà pour la définition du coup du mot queer. Maintenant, si on parle de l'aspect scénique d'intro, on a bien saisi le cadre, la thématique, on va dire. Qu'est-ce qui se passe? T'es seul en scène, tu nous fais un cours du mouvement queer, de ses impacts aujourd'hui. Tu incarnes un personnage particulier. Tu parlais des apparitions de la personne que t'as citée, dont j'ai perdu le nom. Comment ça se met en scène tout ça?
Alors l'idée, c'est justement de surtout pas faire un cours sur ces questions-là. Justement, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les histoires, raconter une histoire, et de surtout pas faire de cours. Vraiment, c'est vraiment un récit. On plonge dans un récit, on suit un personnage qui vit plein d'aventures, et qui évidemment, dans mon écriture, dans mon travail d'auteur, j'avais toutes ces informations en tête, et pour écrire intro. Mais c'est pas un cours, justement, c'est vraiment du théâtre pur, au contraire, où il y a vraiment une vraie scénographie, il y a une sorte de machinerie théâtrale qui se met en place. Il y a vraiment un vrai travail de lumière, un vrai travail de son. Nicolas Pilu à la lumière, Arthur Bevier au son, Inès Quero aussi, qui est collaboratrice artistique sur le spectacle. Donc vraiment, il y a vraiment, je crois, une esthétique très forte et très radicale où il y a moi, ce qui m'intéresse, c'était vraiment de raconter une histoire, de plonger dans l'histoire, de comment est-ce qu'on plonge dans une histoire, comment est-ce qu'on surprend le ou la spectatrice.
Et par rapport au nom du spectacle, intro, est-ce que c'est parce que voilà, c'est décrit comme on revient aux origines de pourquoi on en est comme ça aujourd'hui, pourquoi on est dans cette situation, ou alors il y a aussi un jeu dans la mise en scène avec une forme d'introduction aux choses. Est-ce que c'est un spectacle qui permet d'introduire à cette culture aussi d'une certaine façon?
Ouais, carrément. Je suis carrément pour cette définition, pour cette proposition de pourquoi ce titre. Mais il y a un peu tout ça. C'est ouais, une intro pour introduction, mais aussi pour introspection. L'idée de vraiment de plonger dans une histoire, de plonger avec un personnage, d'être vraiment je sais pas, il y a pas d'autre mot que plonger, quoi. D'être vraiment radicalement avec avec l'acteur qui raconte l'histoire et qui vit, en fait. Il n'y a pas que une narration où je raconte, vraiment il y a des vraies actions sur scène.
Pauline, peut-être un mot sur intro. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'assister aux répétitions, de déjà voir le spectacle, ou tu connais un peu Dylan, donc peut-être que tu peux parler de son travail, de sa qualité scénique aussi.
Tout à fait. Alors moi, j'ai vu le spectacle puisqu'il a déjà joué au Théâtre du Champ de Bataille en partenariat donc avec le Quai. C'était la création d'ailleurs, il me semble. Voilà, oui. Fin 2025. Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que pour le Quai, nous, c'est une fierté, c'est très chouette d'accompagner ces donc jeunes acteurs et actrices que sont donc Dylan, et puis on parlait aussi voilà d'Inès Quéraud qui t'accompagne beaucoup à la collaboration artistique qu'on a vu nous aussi dans Au Bon Pasteur, la création de Martial Difonzobo, notre directeur, et ça fait vraiment une continuité, ça fait sens puisque voilà, c'est deux comédiens comédiennes qui ont fait le CPES, donc la classe de préparation aux écoles supérieures de théâtre, et donc qui ont été entre autres, hein, en partie bien sûr, en partenariat avec le Conservatoire d'Angers, formé au Quai, qui ont rencontré voilà différents artistes qui ont rythmé la programmation du Quai ces dernières années. Et c'est vrai que c'est très chouette et ça fait sens de voir comment voilà ces enseignements et ces rencontres se retrouvent aujourd'hui dans leurs travaux respectifs et puis dans leur travail ensemble, puisque c'est aussi peut-être une rencontre qui a été permise par ce CPES.
Absolument.
Et donc c'est chouette de voir disons la suite de l'histoire s'écrire et de voir voilà que les dates arrivent, les projets aussi, et de vous voir en ce début de carrière, c'est très chouette pour nous, l'équipe du Quai.
Et puis jouer au Quai, puisque du coup ce sera au Quai, intro si je ne me trompe.
C'est en scène de répétition.
Voilà, scène de répétition, donc ça doit... C'est quelque chose aussi pour toi, j'imagine.
Ah oui, c'est vraiment... C'est très émouvant et très... C'est une chance incroyable, c'est ce que je disais, c'est un luxe vraiment de pouvoir jouer au Quai, en scène de répétition, où aussi il y a eu... beaucoup de formations, on a eu beaucoup de stages, je pense à Pierre Maillet, je pense à Sonia Chiombretto, avec qui on a travaillé, même avec Martial ou avec Élise Vigier, on a travaillé vraiment dans ces salles-là, où on a été formés là-dedans, même avec Charline Poron, Damien Avisson, voilà. C'est très émouvant d'être là, dans cette salle, avec son propre petit bébé, quoi. De dire, allez, on va accoucher de ça, c'est comme une naissance, en fait. Enfin, moi, je le prends comme ça, de dire, on revient, à la maison et on délivre ce spectacle qui nous tient très très fort à cœur et voilà, on espère que ça pourra plaire.
Et ben justement, on va parler des publics dans quelques instants. À qui tu espères adresser ce spectacle? Est-ce qu'il y a des réactions attendues ou pas? Mais ça, tu le gardes pour toi. Pour l'instant, on fait juste un petit détour par la Madeleine du Graal et on découvre les Pokémon.
Daron, daronne, bienvenue dans la Madeleine du Graal. Aujourd'hui, on plonge dans un phénomène qui a transformé nos cours de récré en véritable salle de marché boursier. La carte Pokémon. Qui parmi vous n'a jamais ressenti cette fièvre, cette adrénaline en ouvrant un paquet de cartes Pokémon? Ce frisson en découvrant un Évoli brillant ou, Saint Graal, un Dracaufeu de première édition?
Un jour vous serez le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis.
Moi j'étais prêt à échanger mon goûter de la semaine pour une carte rare. Ces petits rétangs le cartonné ont débarqué en France vers 1999, dans le sillage du jeu vidéo et de la série animée. imaginée au Japon. Tout a commencé en 1996 avec un certain Satoshi Tajiri qui, passionné par la collection d'insectes de son enfance, invente un univers où des créatures fantastiques se capturent et se collectionnent. De là naît le jeu de cartes à collectionner créé par Wizards of the Coast, la même société qui nous avait déjà rendu accro avec Magic the Gathering. Oh, ce bruit! Ah, vous l'entendez? L'ouverture d'un paquet neuf. Quel moment sacré! Et cette odeur d'encre fraîche, presque aussi entêtante que celle des autocollants Panini. À l'époque, c'était la guerre dans les cours d'école. On négociait comme des traders de Wall Street. Et les règles du jeu? Eh bien, franchement, on les connaissait pas vraiment. L'important, c'était d'avoir LA carte que personne n'avait. Souvenez-vous aussi des interdictions dans les écoles. Les cartes Pokémon, c'était la contrebande de l'époque. Confisquées par les instits qui n'en pouvaient plus des disputes à la récré. Et ses parents désespérés devant nos collections qui engloutissaient notre argent de poche. Mais enfin, c'est juste du papier. Et aujourd'hui, eh bien figurez-vous que cette folie passagère n'a jamais vraiment disparu. Les cartes Pokémon sont devenues un véritable investissement. La fameuse Dracaufeu, première édition, eh bien vendue aux enchères pour plus de 300 000 dollars en 2020. Qui aurait cru que nos trésors d'enfance deviendraient de véritables actifs financiers? Une véritable génération de collectionneurs a pris le relais, avec des youtubeurs qui déballent des boosters vintage en direct devant des millions de spectateurs. Les enfants des années 90 sont devenus des adultes nostalgiques, prêts à dépenser des fortunes pour retrouver la carte qui leur avait échappé. Et le plus beau dans tout ça, eh bien c'est que les enfants d'aujourd'hui continuent de s'arracher ces cartes, exactement comme nous à l'époque. Même combat générationnel, même dispute à l'incré. Une passion intergénérationnelle, comme quoi attraper des créatures imaginaires dans des petits rectangles de carton, ça ne se démode pas. Alors, chers auditeurs, si vous avez encore vos vieilles cartes Pokémon greniers chez vos parents, c'est peut-être le moment d'aller fouiller dans les cartons. Qui sait, votre retraite s'y cache peut-être.
Retrouvons tous nos désirs, plongeons ensemble dans nos souvenirs. Le temps leur a été fatal, c'est la Madeleine du Graal.
Quel plaisir d'avoir vu la porte s'ouvrir pendant la Madeleine du Graal, la porte du studio. Mathéo est avec nous, il sera donc bien tout à l'heure pour sa chronique d'actualité. Mathéo, on parle de quoi d'un tout petit mot ?
Rapidement, on va parler du scandale sur les laits infantiles contaminés à Angers, partout sur le territoire. On va essayer de décrypter un petit peu tout ça.
Voilà, juste après tout ça, on revient d'abord avec Dylan et Pauline.
Topette avec Pierre Benoît.
Rebonsoir Pauline, rebonsoir Dylan, rebonsoir. Toujours avec nous pour parler d'intro notamment. Alors vous discutiez beaucoup en antenne, je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait des choses qu'on aurait oublié de mentionner par rapport à intro, Dylan notamment? Est-ce que tu voudrais revenir sur un point particulier, que ce soit dans la mise en scène ou alors sur le propos, sur le message véhiculé?
Qu'est-ce qu'on disait? Non, que c'est ça s'adresse à partir de 16 ans parce que ça parle de, voilà, c'est des sujets très plutôt sensibles et c'est très intense. Enfin, c'est vraiment quand une fois qu'on est plongé dans l'histoire, voilà, on est plongé quoi, on y va jusqu'au bout et après on sort un peu. C'est comme une sorte, je sais pas comment dire en fait. Ouais, il y a une sorte d'apesanteur après la fin du spectacle et après il y a un temps de ça se dépose. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu cette sensation-là. Et donc oui, entre 16 et... Bon, après... Voilà. Et voilà, non, dire que je suis très heureux et que je suis trop content de pouvoir présenter ce spectacle qui, j'espère, va encore vivre après. Voilà.
Eh bien, on l'espère, bien évidemment. Tu parlais des publics, c'est la question que j'avais sur les personnes qui vont venir voir ce spectacle, intro, ou même, Pauline, peut-être qu'il y a des éléments de réponse vu d'extérieur. Est-ce que tu penses que ce sont des personnes qui sont en quête d'une réponse, justement, qu'on menait une réflexion par rapport à leur propre identité, ou alors des personnes qui sont intéressées par le sujet, ou des personnes curieuses qui, justement, ne connaissent pas? Parce que, voilà, est-ce que tu as une idée du profil type, on va dire, des personnes qui pourraient venir voir intro?
Moi, j'ai l'impression que ça s'adresse vraiment à tout public, qu'on soit une personne qui s'intéresse de base à ce sujet ou non. Et justement, on m'a dit aussi, il y a un programmateur qui m'a dit, c'est bien parce que ce spectacle, il permet presque, enfin, il permet aussi d'initier une personne qui va jamais au théâtre et qui peut facilement voir ce spectacle en disant, ah bah ouais, en fait, c'est grave cool le théâtre et ça change. C'est une forme un peu originale, on va dire. J'ai l'impression, je regarde Pauline. Mais, enfin, voilà, enfin, je trouve que tout le monde peut vraiment assister à ce spectacle et tout à fait comprendre et être vraiment plongé dans l'histoire, j'ai l'impression.
Marie, je me tourne vers toi, alors pas forcément pour nous apporter ton regard précisément sur la thématique, mais par rapport à ce que dit Dylan sur la démarche théâtrale, artistique, le propos aussi de société qui peut être porté. Est-ce que toi, c'est à ton avis le rôle que doit tenir justement le théâtre quand tu viens voir une pièce de théâtre, est-ce que c'est ce que tu peux attendre?
Alors, moi j'ai noté quand Dylan s'est exprimé qu'effectivement il faut, et il a bien fait de le rappeler, que jusqu'en 82 en fait c'était un délit, l'homosexualité.
Ouais.
Et en fait 82 ça date de pas si longtemps que ça. Ouais. À l'échelle de l'histoire, et cette évolution là elle est importante. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se reposer sur ses lauriers entre guillemets, et d'autant plus avec peut-être un peu le contexte actuel qui a tendance un peu à nous tirer vers le repli sur soi. Je pense que c'est important que des sujets comme ça viennent et à travers la culture. C'est-à-dire que pour moi, c'est presque le rôle principal de la culture d'ouvrir les personnes à des choses ou à des sujets ou des thèmes dont ils n'ont pas forcément connaissance, finalement les amener vers des choses dont ils peuvent avoir peur ou se sentir un petit peu éloignés. Et du coup, je trouve que c'est un thème très important. Après, j'avais une question à Dylan, parce que j'ai lu les romans d'Édouard Louis, qui sont quand même assez noirs. Et du coup, je voulais, enfin, que moi j'ai trouvé un petit peu noir et dur dans l'écriture quand même. Et ma question, c'était comment tu as réussi à, est-ce que ton spectacle a aussi en filigrane un petit peu cette noirceur ou cette dureté, ou tu as réussi à t'en départir au moment de l'écriture?
Moi, ce qui me touche aussi beaucoup chez Édouard Louis, c'est justement son écriture très crue, très incisive, où il va pas poétiser la violence, où il va en parler frontalement. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien, quand j'étais plus jeune, de pouvoir lire un roman, une écriture, qui ne se cachait pas derrière une poésie ou un langage un peu intello ou bourgeois. Il allait frontalement dire, parler de sexualité, et même, par exemple, dans son roman qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle En finir avec Eddie Bellegueule, qui est un peu un de ses premiers, c'est le premier que j'ai lu, et son écriture, elle est très frontale. Il parle de sexe, mais il parle de sexe quand il est plus jeune, ses premières rencontres sexuelles et tout ça. Et il en parle avec, il y a pas de problème. Il y a une sorte de, bah ouais, j'ai sucé un tel dans la grange et c'est ok. Et il en parle frontalement. Et ça fait beaucoup de bien, en fait, de lire ça. Moi, je m'attache beaucoup à cette écriture-là très crue, très frontale. Qui s'inspire aussi de Guillaume Dustan, qui est un autre auteur des années 90, qui lui est encore beaucoup plus frontal et encore plus cru, où il va parler il fait presque l'apologie de la drogue et l'apologie du barback, c'est-à-dire du rapport sexuel sans préservatif entre personnes homosexuelles dans les années 90, c'est-à-dire en pleine crise du sida. Donc c'est hyper choquant à l'époque. Mais il a permis aussi beaucoup de parler, en fait, du VIH et du sida à l'époque, grâce à cette écriture très incisive, très crue. Bref, pour moi, ce sont des révélateurs, un peu des écritures qui m'ont beaucoup à la fois surpris, mais aussi marqué, et qui m'ont permis aussi de dire, en fait, on a le droit d'exister aussi fort, on a le droit de parler ça de manière aussi crue et aussi vraie, aussi réelle, quoi. On a le droit d'exister aussi fort. Et donc, la noirceur, elle existe dans le spectacle, mais il y a aussi beaucoup de moments beaucoup plus légers, où il y a beaucoup de rapports à la pop culture, notamment à Lady Gaga, où vraiment il y a des moments très comiques, en fait. Il y a une sorte de justesse à trouver entre parler frontalement de ces violences-là, parce qu'il faut en parler et dire que ça existe, et en même temps dire qu'il y a une absurdité aussi, dans ces violences-là. Par exemple, il y a une scène où on voit un des flics dans les années 80 qui arrive pour dans l'épisotière et qui se fait passer pour une personne homosexuelle et donc qui va essayer de draguer maladroitement d'autres homosexuels. Et donc c'est une situation très comique. En fait, il y a une sorte de, on a essayé de faire une sorte de balance entre ces violences-là et de parler de cette absurdité-là, de dire que l'homosexualité est un délit. Il faut savoir aussi que l'homosexualité était décrite, définie comme une maladie mentale jusqu'en 90.
C'est encore plus récent que 92.
Voilà. Et pour dire, enfin, il y a encore beaucoup de luttes à mener. Par exemple, les thérapies de conversion, qui sont des tortures, qui sont faites envers les homosexuels et les personnes transgenres, ont été interdites en 2022. C'est assez fou de dire qu'en fait, il y a encore des combats à mener. D'ailleurs, le prochain spectacle de la compagnie, qui s'appelle Torrent, parle notamment de cette thérapie de conversion. Voilà. Enfin, pour dire qu'il y a, c'est des grands sujets, des choses qui portent vraiment à cœur et qui permettent d'en parler frontalement. Et ça fait beaucoup de bien. Parce que j'ai grandi aussi avec beaucoup de théâtre où il y avait beaucoup de poésie, les Molière, les Shakespeare, les machins. Et en fait, je me faisais chier de fou frontalement. Mais du coup, moi, j'ai envie de, quand on fait un spectacle, j'ai l'impression même son premier spectacle, on se dit, oh, moi, je rêve de ce théâtre-là, je rêve de ce spectacle-là, je rêve de le voir comme ça, je rêve qu'il soit comme ça. Et en fait, je réalise un peu ce rêve-là de mettre en scène le spectacle de mes rêves, quoi. Où je suis un peu mon regard d'adolescent qui se fait chier au théâtre et qui a envie un peu de dire, allez, on fout tout en l'air, on y va, quoi. Voilà.
Le tout en une heure, hein, du coup, si je comprends bien.
C'est ça.
Intro.
Voilà, une heure.
On va commencer à boucler tranquillement cette émission. Et on va surtout redonner les informations pratiques, l'essentiel à comprendre, même si on a bien compris et on aimerait en parler pendant plus longtemps, mais Mathéo est en train de préparer son micro, donc on va lui laisser faire sa chronique d'actualité, puis on revient avec vous deux, toi Dylan et toi Pauline, pour conclure cette émission.
Fin 2025, le 23 décembre précisément, la jeune Isis, âgée de seulement 27 jours, décède à Angers. Une enquête est immédiatement ouverte pour trouver les causes du décès de la petite fille. Des examens complémentaires sont alors menés. La mère de l'enfant remet aux autorités un pot de lait en poudre de la marque Gigos, propriété du groupe Nestlé, afin que celui-ci soit analysé. Coup de tonnerre, le 22 janvier dernier, la cellule d'investigation de Radio France révèle que le lait qu'avait consommé l'enfant avait été contaminé par la toxine céréulide. Une deuxième enquête est ouverte et un lien est directement fait avec le décès d'un nourrisson début janvier à Pessac. Trois semaines plus tard, c'est cette fois-ci à Toulouse qu'un bébé de 8 mois décède avec une nouvelle fois de fortes suspicions tournées vers le lait infantile qu'il avait consommé. On avance de quelques jours avant d'apprendre l'ouverture d'une cinquième enquête, cette fois-ci à Blois, après qu'un enfant ait présenté des troubles de santé, sans doute dus à la consommation une nouvelle fois de lait infantile. Le 27 février, le ministère de la Santé fait un autre lien, cette fois-ci avec un bébé hospitalisé à Montpellier après avoir consommé du lait infantile de la marque Gallia. Et puis une semaine plus tard, cette fois-ci, le Courrier de l'Ouest met la main donc sur les résultats d'analyse du lait consommé par Isis, révèle que ces derniers valident ce que la cellule d'investigation de Radio France avait pointé du doigt. Au centre de toutes les tractations, de tous les questionnements, on retrouve donc cette toxine, la céréulide. Je suis obligé de rentrer dans les termes un petit peu scientifiques, mais cette toxine, qui n'est pas une bactérie, ce n'est pas la même chose, est sécrétée par certaines souches d'une bactérie appelée Bacillus cereus. Elle rentre dans la catégorie de celles que l'on croise partout dans la nature. On les nomme les bactéries ubiquitaires. Elle se niche très souvent dans la poussière, mais aussi dans les terres, ce qui lui permet donc de contaminer des matières premières, notamment agricoles. On la retrouve ainsi dans les féculents, les céréales, les produits laitiers, le lait infantile, les légumes, les épices, en bref, un petit peu partout. La toxine, elle, apparaît dans des conditions bien précises lorsque l'aliment subit une cuisson. La bactérie se sent alors agressée, elle s'enferme dans une spore. Si elle sera tuée par la cuisson, les spores, elles, ne le seront pas. Sauf que, et c'est là que la subtilité apparaît, il suffit de laisser son aliment quelques minutes dehors, entre 10 et 50 degrés, pour que ces spores éclosent, donnant naissance à une bactérie active. Une fois que cette dernière se réveille, elle va se multiplier à une vitesse grand V. La céréulide apparaît alors. Il s'agit d'un métabolite secondaire qui n'est pas produit pour que la bactérie grandisse. Il s'agit plutôt d'un moyen de survie. Il faut garder à l'esprit que dans la Terre, les bactéries, il y en a beaucoup. Alors pour s'imposer dans son environnement, la Bacillus cereus utilise donc une arme chimique à la fois antimicrobienne et antifongique, la fameuse céréulide. C'est particulièrement efficace et je m'en réfère ici à une étude publiée dans Applied and Environmental Microbiology qui prouve que la toxine détruit les cellules en s'attaquant à leurs réserves de potassium, chose fatale notamment pour les champignons par exemple. Lorsque celle-ci renaît sous une forme active dans un aliment chauffé, elle utilise donc cette toxine par réflexion réflexe et elle est assez dangereuse car une fois ingérée, elle va agir entre les 30 minutes et les 6 heures à venir, détruisant les mitochondries de certaines de nos cellules. Dans la majorité des cas, c'est surtout très désagréable, notamment pour des adultes. On parle de vomissements ou de nausées qui partent au bout de 24 heures. Le combat n'est pas le même pour les nourrissons. Dans la plupart des cas, l'intoxication entraîne des difficultés supplémentaires avec des défaillances au niveau du foie, des atteintes cardiaques et parfois même la mort. Alors, on connaît finalement très peu cette bactérie puisque avant les scandales du lait infantile, l'ANSES avait documenté seulement 8 cas très graves, dont 5 enfants ayant succombé à la toxine en France et en Europe. Si l'on en revient au cas d'Isis, le Courrier de l'Ouest a indiqué dans les résultats qui lui ont été transmis que le lait Gigos, donc appartenant toujours au groupe Nestlé, que la fille avait ingéré, contenait une dose 3 fois supérieure à la limite autorisée. Éric Bouillard, procureur de la République d'Angers, avait indiqué au quotidien que l'enquête était toujours en cours, ce qui signifie que ces analyses pourtant parlantes ne sont pas suffisantes. Les boîtes ont depuis été rappelées dans plus de 60 pays, dont la France, après que l'EFSA ait été saisie par une commission européenne. Mais alors pourquoi les analyses traînent? Pourquoi l'enquête prend autant de temps? Alors pour plusieurs raisons, deux notamment. La première, bien, c'est que les symptômes arrivent très vite, ils sont aussi d'une durée assez courte, ce qui a pour conséquence la quasi-impossibilité de retrouver de la céréolite dans les selles. La deuxième, c'est l'Institut Pasteur qui l'expliquait dans les colonnes de Libération. En fait, la France n'a pas de centre de référence concernant la bactérie. Le docteur Hervé Lebars du CHU de Brest complétait cette affirmation en spécifiant qu'il n'existe aujourd'hui aucun test capable de la retrouver dans les prélèvements biologiques. Dans le cas d'Isis, donc, la céréolide avait donc été retrouvée dans la boîte consommée, laissant planer un petit doute. Mais surprise, rappelez-vous le cas du bébé qui avait été hospitalisé à Montpellier. Eh bien, la présence de cette toxine n'a pu être identifiée dans ses selles. Dans la cellule, enfin, c'est la cellule, pardon, investigation de Radio France qui l'a révélé. Il s'agit de la première fois que l'on identifie de la céréolide chez un nourrisson français hospitalisé et qui plus est à un taux une nouvelle fois bien supérieur au seuil de danger. Un miracle que l'on doit à un laboratoire belge, Cianzano, c'est son nom, qui a été mandaté par la France avec l'accord de Nestlé, l'entreprise qui a par ailleurs beaucoup insisté auprès des parents d'enfants ayant consommé du lait contaminé pour que ces derniers renvoient les pots avant la tenue des analyses, et ce malgré leur refus. Plusieurs plaintes ont ainsi été déposées par bon nombre d'entre eux, réunis au sein d'un collectif nommé Intox Alim, car les chances de voir les différentes entreprises condamnées, que ce soit Nestlé ou Lactalis par exemple, sont assez minces. La faute à une réglementation assez aléatoire faite sur ce que l'on pourrait appeler quelques aberrations scientifiques ou au moins des faits datés, puisqu'en Europe, la sécurité microbiologique des aliments est encadrée par le règlement CE numéro 2073-2005 et ainsi mis en place un critère de sécurité qui stipule que si une bactérie telle que la listeria ou la salmonelle est présente à un certain seuil, le lot est illégal et doit être retiré du marché. Or, la Bacillus cereus et la céréulide ne rentrent pas dans cette case. Les entreprises sont seulement jugées sur les normes donc ACCP ou bonne pratique d'hygiène, ce qui signifie qu'il faut passer par une commission pour voir les produits retirés de la vente en cas de présence trop forte de la toxine, et c'est ce qui s'est passé. Autre juridiction qui pourrait questionner, c'est la norme ISO 7932, c'est une norme internationale de comptage de Bacillus cereus vivante au format unité formant colonie par gramme. Petit problème, elle n'est pas optimale pour détecter la céréulide. Cela peut fonctionner puisqu'en théorie les échantillons sont laissés pendant 18 heures à 30 degrés et donc les spores vont germer, mais que se passe-t-il si le plat a été recuit plusieurs fois avec un laps de temps espacé ayant permis l'expansion de ces bactéries? Eh bien, ces dernières auront été détruites, mais pas la toxine. Il y a donc un gros flou sur le cas de la toxine céréulide en France et en Europe. Nul doute que cela va bouger dans les mois qui viennent et nous, on suivra cela évidemment de très près.
Merci beaucoup, Mathéo. Il nous reste 3 toutes petites minutes pour conclure avec nos invités de la soirée, Pauline et Dylan. Dylan, sur intro, quel serait le mot à retenir qui ne soit pas intro lui-même? Enfin, c'est une façon de parler, hein, c'est
surprise.
Surprise, légèreté et combat.
Ouais. Et lutte. Et révolte.
Révolte, on passe un bon moment et en même temps, ça nous bouscule. Hein,
oui, voilà. Exactement. C'est une sorte de bascule, enfin, de balance entre très intense et de la légèreté de la pop culture, par exemple.
On te dit merde, bien évidemment.
Je prends.
Et tu reviens ici quand tu veux, surtout pour le prochain spectacle dont tu as annoncé le nom tout à l'heure.
Avec plaisir, Torrent.
Torrent. Voilà, on espère que tu viendras avec grand plaisir. Merci beaucoup Dylan.
Merci beaucoup.
Comédien, metteur en scène, donc de Intro en l'occurrence, dont on parlait ce soir, qui s'inscrit dans le cadre d'écriture en acte. Temps fort, Pauline, je me tourne vers toi. D'un tout petit mot là également, les autres spectacles, il y en a 6 autres, sur des thématiques aussi contemporaines qui abordent des origines, des sujets de société, des questionnements, des cas d'identité.
Tout à fait, c'est exactement ça. À retenir du 1er au 10 avril au Quai, on a un pass 3 spectacles, 12 euros le spectacle. Voilà, on peut les enchaîner, se faire une petite semaine autour en effet de toutes ces problématiques sociales qui sont portées par les auteurs et autrices d'aujourd'hui, les écritures contemporaines. Voilà, au Quai à l'honneur en ce mois d'avril.
Et je vois que tu as ta brochure Bigou qui est arrêtée quelque part. Est-ce que tu voulais faire un point de programmation éventuellement ou une info pratique concernant le Quai ?
Alors l'info pratique, c'est surtout ce pass écriture en acte avec 3 spectacles à 12 euros. Et après, la programmation continue hein, au-delà d'avril, avec notamment, j'en parlais dans la revue, Création 7, la création de Tiffen Raffier, un T900 avec une belle équipe au plateau qui est en pleine répétition actuellement. Donc voilà, découvrir un peu les profils et les portraits de ces artistes dans la revue du Quai, disponible gratuitement dans le forum.
Dans le forum uniquement ou ailleurs en ville ?
Alors, dans le forum uniquement, mais sinon, on a la version, bien sûr, en PDF sur le site internet. On peut retrouver toutes nos infos, site internet, réseaux sociaux, en particulier Instagram. Là, vous aurez toutes les actus en direct.
Mais allez quand même la prendre en physique, elle est très belle.
Elle est très belle.
Vous pouvez pas la louper. Je pense que même si vous êtes à 30 mètres du